Il se leva et fit quelques pas, mais comme la chambre était très encombrée, il se rassit aussitôt. C'est peut-être ce qu'il aspira de nouveau, et il se remit à hurler. « Écoute, misérable, ignoble créature, tu ne comprends donc pas que si je ne t'ai pas tué encore, c'est que je te garde pour que tu répondes demain au juge. Dieu m'est témoin, dit-il en levant la main, que peut-être j'ai été en effet coupable, peut-être avais-je le secret désir que mon père mourût. Mais je te jure que je n'étais pas aussi coupable que tu le penses. Peut-être ne t'ai-je pas poussé du tout, non, non. N'importe, je déposerai contre moi-même demain. J'y suis résolu et je dirai tout, tout. Mais nous irons ensemble. Et quoi que tu puisses dire contre moi, cela m'est égal. Je ne te crains pas. Je confirmerai moi-même tout ce que tu diras. Mais toi aussi, il faudra que tu avoues. Il le faudra. Il le faudra. Nous irons ensemble. Ce sera. » Ivan prononça ces paroles avec énergie et solennité. Il n'y avait pas de doute possible devant son regard. Ce qu'il disait, il le ferait. « Vous êtes malade, il me semble très malade, » dit Smerdiakov, sans railler cette fois, et même avec pitié. « Nous irons ensemble, » répéta Ivan. « Et si tu ne viens pas, n'importe, j'avouerai pour toi et pour moi. » Smerdiakov restait songeur. « Non, cela ne sera pas. Vous n'irez pas, » dit-il d'un ton péremptoire. « Tu ne me comprends pas. Vous aurez trop honte. Et d'ailleurs, ce serait inutile, car je nierai vous avoir jamais rien dit de pareil. Je dirai que vous êtes malade, comme il est trop évident, ou que vous avez eu pitié de votre frère et que vous me chargez pour le sauver. » Que vous m'avez toujours regardé comme une mouche plutôt que comme un homme. Et qui vous croira ? Écoute, tu m'as montré cet argent pour me convaincre. » Smerdiakov retira le livre et écarta la liasse. « Cet argent, prenez-le, » dit-il en soupirant. « Certes, je le prends, mais pourquoi me le donnes-tu ? Puisque tu as tué pour l'avoir, demanda Ivan avec inquiétude. Je n'en ai plus besoin, dit d'une voix tremblante Smerdiakov. Je vais d'abord la penser qu'avec cet argent, je commencerai une nouvelle vie à Moscou, ou mieux encore à l'étranger. C'était mon idée. Je me disais que tout est permis, mais vous m'avez appris cela. Car vous m'avez appris bien des choses. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vertu, car elle serait inutile. Cela me semblait vrai. Tu l'avais pensé tout seul, dit Ivan avec un sourire embarrassé. Non pas, mais c'est vous qui me l'avez révélé. Et maintenant, alors, tu crois en Dieu puisque tu rends l'argent? Non. « Je n'y crois pas, » dit Smerdiakov d'une voix à peine perceptible. « Et pourquoi donc alors le rends-tu ? » ?»« Assez, Dieu !» Smerdiakov fit un geste désespéré. « Vous-même disiez bien que tout est permis. Et maintenant, pourquoi êtes-vous si inquiet ? Vous voulez même déposer contre vous, vous ne le ferez pas, » fit-il avec conviction. Tu le verras bien. Mais cela ne se peut pas. Vous êtes trop intelligent. Vous aimez l'argent, je le sais. Les honneurs aussi, car vous êtes très orgueilleux. Vous aimez les femmes, l'indépendance. Vous ne voudrez pas gâter toute votre vie et vous salir d'une telle honte. Vous êtes, enfin, de tous les enfants de Fiodor Pavlovitch, celui qui lui ressemble le plus, c'est la même âme. « Tu n'es décidément pas bête, » balbutia Ivan avec stupeur. Le sang lui monta à la tête. « Et moi, qui te croyais stupide ?»« C'est par orgueil que vous le croyez. Prenez donc l'argent. » Ivan prit la liasse de billets et la mit dans sa poche. « Je les montrerai demain au juge, » dit-il. « Mais personne ne vous croira. Vous avez de l'argent à vous, vous avez pris ces 3 000 roubles dans votre bureau. » Ivan se leva. « Je te répète que je ne t'ai pas tué uniquement parce que j'ai besoin de toi demain. Ne l'oublie pas. »« Eh bien, tuez-moi. Tuez-moi maintenant, » dit Smerdiakov d'une voix étrange. « Vous ne l'oseriez pas, » ajouta-t-il avec un sourire amer. « Vous n'osez plus rien. Vous, si audacieux naguère. » « À demain, » dit Ivan en se dirigeant vers la porte. « Attendez, montrez-le-moi encore une fois. » Ivan retira les billets et les lui montra. Smerdiakov les considéra pendant une dizaine de secondes. « Allez maintenant, Ivan Fiodorovitch !» cria-t-il tout à coup. « Qu'as-tu ? » demanda Ivan sur le point de partir. « Adieu !»« À demain !» Ivan sortit. Une sorte de joie montait en lui. Il se sentait une fermeté inébranlable. La situation était nette et sa décision prise. Au moment de rentrer chez lui, il s'arrêta tout à coup. « Ne ferais-je pas mieux d'aller tout de suite chez le procureur et de lui déclarer tout ?»« Bon non, demain, tout à la fois. » Et il ouvrit sa porte. À peine entré, il sentit toute sa joie s'évanouir. Une sensation de froid le prit au cœur. Un souvenir écrasant lui revint. Il s'assit sur un divan. La vieille domestique apporta le samovar. Il fit du thé, mais ne le but pas, et renvoya la domestique jusqu'au lendemain. Il était là, mal à l'aise. Tantôt il s'assoupissait, tantôt il se relevait, marchait à travers la chambre. Il lui semblait qu'il avait le délire. Tout à coup, il se mit à regarder autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Enfin, il fixa son regard sur un point. Il sourit, mais son visage s'empourpra de colère. Longtemps, il resta immobile, accoudé, la tête dans les mains, et toujours regardant le même point de la chambre du côté du divan. Je ne suis pas médecin, et pourtant je sens que le moment est venu de donner quelques explications sur la maladie d'Ivan Fiodorovitch. Disons d'avance qu'il était à la veille d'un accès de fièvre chaude. Ignorant en médecine, je risque cette hypothèse qu'il avait peut-être pu, par un effort de volonté, ajourner la crise au-delà des limites ordinaires. Il se savait malade, mais il ne voulait pas céder à la maladie en ce moment fatal, où il devait être là, parler hardiment et se justifier à ses propres yeux. Pourtant, il était allé voir le médecin que Catalina Ivanovna avait mandé de Moscou. Mais il avait fallu qu'elle l'y forçât. Après l'avoir examiné, le médecin lui avait dit qu'il avait en effet un dérangement cérébral et ne s'étonna pas quand Ivan lui parla d'hallucination. « Oh, cela n'est pas surprenant, » dit le médecin. « Il faudrait pourtant les contrôler. Oh, il faut vous soigner sans retard, autrement... « Cela empirerait. » Mais Ivan Fiodorovitch ne suivit pas ce sage conseil. « Je marche bien, j'ai des forces. Quand je tomberai, alors qu'on me soigne, si l'on veut. » Il avait donc conscience de son délire et regardait fixement un certain objet en face de lui, sur le divan. Là, apparut tout à coup, Dieu sait comment, un homme, ou plutôt un gentleman russe, qui frisait la quarantaine, comme disent les Français, grisonnant un peu, les cheveux longs et épais, une petite barbe en pointe. Il portait un veston marron, évidemment du meilleur tailleur, mais déjà usé, datant d'il y a 3 ans par exemple, et pas mal démodé. Son linge, son long foulard, tout était à l'instar des gentlemen du dernier chic. Mais à regarder de près, le linge était un peu sale et le long foulard assez défraîchi. Son pantalon quadrillé était bien coupé, mais trop clair et trop juste, comme on n'en porte plus maintenant. Son chapeau rond en feutre mou, blanc, n'était déjà plus de la saison. En un mot, un mélange de comme il faut et de gêne. Il semblait que ce gentleman fût un de ces anciens pommiers chics florissants du temps des serfs. Il avait vécu, vu le grand monde, eu jadis de bonnes relations, et peut-être même les avait-on conservées jusqu'à cette heure, mais petit à petit, la gêne avait succédé à l'aisance, et le gentleman, après l'abolition du servage, était devenu quelque chose comme un pic-assiette de bonne compagnie. Ces sortes de gentlemen sont d'ordinaire de vieux garçons ou des veufs. Leurs enfants, s'ils en ont, sont quelque part au loin, à faire leur éducation chez quelques tantes. La physionomie de cet hôte inattendu était, oh, je ne dirais pas bonasse, mais bon garçon, annonçait un caractère prêt à toutes les circonstances et naturellement disposé à toutes les amabilités. Il n'avait pas de montre sur lui, mais il portait un lorgnon en écaille pendu à un ruban noir. Au doigt du milieu de sa main droite brillait une bague en or massif avec une opale à bon marché. Ivan Fiodorovitch gardait le silence, déterminé à ne pas engager la conversation. L'hôte attendait comme un pic-assiette qui vient de quitter la chambre qu'on lui prête, et à l'heure du thé, tient compagnie au maître de la maison, mais se tait pour ne pas troubler les réflexions du maître. Tout à coup, son visage devint soucieux. « Écoute, dit-il à Ivan Fiodorovitch, excuse-moi, je ne te dis que pour le mémoire. Tu allais chez Smerdiakov pour lui demander des renseignements à propos de Katerina Ivanovna et tu es parti sans rien savoir à son sujet. Tu l'avais oublié, probablement. « Ah oui, dit Ivan, en aussitôt troublé. Oui, en effet, j'ai oublié. N'importe d'ailleurs, remettons tout à demain. Quant à toi, ajouta-t-il avec colère, en s'adressant à l'hôte, qu'as-tu à me parler de cela? J'y pensais justement, car j'y pensais. Ce n'est pas toi qui me l'as rappelé. Eh bien, ne crois pas que ce soit moi qui te l'ai rappelé, dit le gentleman avec un sourire affable. On ne peut croire par force. Thomas a cru parce qu'il voulait croire, et non parce qu'il a vu le Christ ressuscité. Les spirites, par exemple, je les aime beaucoup. Imagine-toi qu'ils croient servir la religion parce que le diable leur fait les cornes du fond de l'autre monde, ce qui est une preuve matérielle de l'existence de l'autre monde. Une preuve matérielle de l'existence de l'autre monde. Comment trouves-tu cela? Encore, cela ne démontrerait tout au plus que l'existence du diable, mais celle de Dieu. Je vais me faire recevoir de la société idéaliste pour leur faire de l'opposition. Hé hé! Écoute, dit Ivan Fiodorovitch en se levant, il me semble que j'ai le délire. Tu peux mentir tant que tu voudras, ça m'est égal. Je n'éprouve que de la honte. Je veux marcher dans la chambre. Parfois je cesse de te voir, de t'entendre, mais je devine toujours ce que tu veux dire, car toi, c'est moi qui parle et non pas toi. Je ne sais plus la dernière fois si je dormais ou si je voyais réellement. Je vais me mettre sur le front une serviette mouillée d'eau froide. Peut-être vas-tu te dissiper. Ivan alla prendre une serviette, la trempa dans l'eau, en banda son front, puis se mit à marcher de long en large dans la chambre. « Il te plaît de me tutoyer ?» dit l'hôte. « Imbécile ! Crois-tu que je puisse te dire vous ? Je suis de bonne humeur. Oh, si seulement je n'avais pas mal à la tête. Mais pas tant de philosophie que la dernière fois, je t'en prie. Si tu ne peux pas t'en aller, au moins dis-moi des mensonges gais, des cancans, car en qualité de pique-assiette, tu dois en savoir. » Voilà un cauchemar persistant. Mais je ne te crains pas, j'aurai le dessus. On ne me mènera pas à la maison des fous. C'est charmant, un pique-assiette. Eh oui, c'est ma condition. Que suis-je en effet dans le monde, sinon un pique-assiette? À propos, en t'écoutant, je m'étonne, par Dieu, que tu commences à me traiter comme un être réel, et non plus comme une fantaisie de ton imagination, ce que tu faisais encore la dernière fois. Non pas, oh, je ne t'ai jamais pris pour un être réel, s'écria Ivan avec rage. Tu es un mensonge, un fantôme, tu es ma maladie, mais je ne sais comment me défaire de toi. Je pense qu'il faudra que je te tolère pendant quelque temps. Tu es mon hallucination. Tu es la corporisation des plus vils et des plus sots de mes sentiments et de mes pensées. En cela, tu m'intéresserais, si j'avais du temps à perdre avec toi. Pardon, pardon, mais tout à l'heure, quand tu demandais à Alyosha s'il ne t'avait pas entendu, c'est de moi que tu parlais. Tu as donc cru au moins un instant à ma réalité, dit le gentleman avec un doux sourire. C'était d'une faiblesse, mais je ne t'ai jamais cru réel. Et pourquoi tu étais si dur avec Alyosha? Il est charmant. J'ai des reproches à me faire à son endroit à cause de son starlet Sosima. Mais comment oses-tu parler d'Alyosha, âme de valet? Dit Ivan en riant. Tu m'injuries en riant, bon signe. En général, d'ailleurs, tu es plus aimable avec moi que la dernière fois. Je comprends pourquoi cette noble résolution. Tais-toi, ne parle pas de cela, s'écria Ivan furieux. Je comprends. C'est noble, c'est charmant. Tu vas demain défendre ton frère, tu te sacrifies. Oh, c'est chevaleresque. Tais-toi ou je te fouette. Dans un certain sens, je serais assez content d'être battu, car cela prouverait que tu crois à ma réalité. Pourtant, et cessons de plaisanter, tu peux m'injurier, mais mieux vaut être poli, même avec moi. Laquais, valet, imbécile, quel mot! En t'injuriant, je m'injurie moi-même, dit Ivan avec un mauvais rire. Tu me parles mes propres pensées. Tu ne peux donc rien me dire de neuf. Mais tu ne choisis que mes plus saintes pensées. Tu es bête et banal. Je ne puis plus te supporter. Mon ami, je ne cesserai pas d'être un gentleman avec toi, mais je veux être traité comme tel, dit l'hôte avec un reste d'amour-propre bonasse. Je suis pauvre, mais... Je ne dirais pas très honnête, mais... On accepte ordinairement comme un axiome que je suis un ange déchu. Par Dieu, je ne puis me représenter comment j'ai jamais pu être un ange. Si je l'ai jamais été, il y a si longtemps de cela que j'ai pu l'oublier sans péché. Mais je suis jaloux de ma réputation d'homme comme il faut. Ma destinée est d'être agréable. J'aime sincèrement les hommes. On m'a beaucoup calomnié. Quand je viens chez vous, sur la terre, ma vie revêt des apparences de réalité, ce qui n'est pas pour me déplaire, loin de là. Le fantastique me fait souffrir comme toi-même, car j'aime le réalisme terrestre. Chez vous, tout est définition et formule géométrique. Chez nous, oh, ce n'est qu'équation à N inconnue. Ici, je me promène, je rêve, j'aime à rêver. Je deviens même superstitieux. Ne ris pas, je t'en prie. La superstition me plaît. Je comprends toutes vos habitudes. J'aime particulièrement les bains chauds fréquentés par les gens de commerce. Mon rêve est de m'incarner sans retour en quelque grosse marchande afin d'avoir des croyances. Mon idéal est d'aller à l'église, faire brûler avec une foi sincère un cierge devant l'icône. Alors mes souffrances prendraient fin. J'aime aussi vos médecins. Cet été, comme il y avait une épidémie de petites véroles, je suis allé me faire vacciner. Si tu savais comme j'étais content. J'ai même fait une aumône de 10 roubles pour mes frères slaves. Tu m'écoutes plus? Tu es très distrait aujourd'hui. Je sais que tu es allé consulter hier ce médecin. Eh bien, comment vas-tu? Que t'a dit le médecin? Imbécile! Homme d'esprit! Ce n'est pas par amitié que je te demandais cela. Tu peux répondre ou ne pas répondre comme il te plaira. Tiens, voilà mes douleurs rhumatismales qui me reprennent. Imbécile! Pas toujours la même chose. Je souffre depuis l'année dernière de ces douloureux rhumatismes. Oh diable, des rhumatismes! Pourquoi pas? Si je prends un corps, il faut que j'en subisse toutes les conséquences. Satan sum nilumani ame alienum puto. Je suis le diable et rien d'humain ne m'est étranger, je pense. Comment, comment? Satan soumet nihilumani? Oh, c'est pas bête pour un diable. Enfin, je suis ravi de t'être agréable. Mais cela n'est pas de moi, dit Van Interloqué. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. C'est du nouveau, n'est-ce pas? Pour une fois, je serai honnête et je t'expliquerai la chose. Écoute. Pendant les rêves, dans les cauchemars qui proviennent d'un trouble d'estomac ou de quelque autre cause physique, l'homme a parfois des visions si belles, des combinaisons d'apparence si réelles et si compliquées, et il passe par tant d'événements, ou plutôt par tant d'intrigues si bien enchaînées, avec des détails si imprévus, depuis les phénomènes les plus importants jusqu'aux dernières bagatelles, que je te le jure, Léon Tolstoï lui-même ne pourrait rien imaginer de tel, et ses rêves visitent des gens qui ne sont pas du tout des écrivains, des tchinovniks par exemple, des feuilletonistes et des popes. Un ministre a même avoué que ses meilleures idées lui venaient pendant le sommeil. C'est ce qui t'arrive. Je te dis des choses qui ne te sont jamais venues à l'esprit, comme font les personnages de tes cauchemars. De cette sorte, je fais un peu plus que te parler ta pensée. Mais tu mens, mon ton but est de me faire croire que tu n'existes, et voilà que tu prétends être un cauchemar, tu mens. Mon ami, j'ai une méthode particulière que je t'expliquerai ensuite. Attends un peu. Où en étais-je? Ah oui! J'ai donc pris ces douleurs, non pas ici, mais là-bas. Où ça, là-bas? Dis donc, vas-tu rester longtemps encore? S'écria Ivan désespéré. Il cessa de marcher, s'assit sur le divan et prit de nouveau sa tête entre ses mains. Il arracha avec dépit la serviette mouillée et la jeta. « Tu as les nerfs détraqués, » fit le gentleman avec une nonchalante bienveillance. « Tu m'en veux d'avoir attrapé tes douleurs. Quoi de plus naturel pourtant ?» Je me dépêchais, j'allais à une soirée diplomatique chez une grande dame pétersbourgeoise qui tâchait d'accaparer un ministère. En frac, en cravate blanche, gantée, j'allais donc et Dieu sait où j'étais. Il y avait encore loin jusqu'à la terre. Certes, je vais vite, mais la lumière du soleil elle-même met 8 minutes pour parvenir à la terre. Et en frac, en gilet découvert. Les esprits ne gèlent pas, il est vrai, mais une fois incarné, alors... En un mot, j'ai agi un peu légèrement. Dans l'espace, dans les terres, dans l'eau, il fait un froid. C'est-à-dire qu'on ne peut plus appeler cela du froid. 150 degrés au-dessous de zéro. Tu connais la plaisanterie des babas? Quand il gèle à 30 degrés, elle propose à quelques niais de lécher la lame d'une hache et la peau du niais reste collée à la hache. Et ce n'est que 30 degrés, mais 150 degrés. À 150 degrés, il suffirait de toucher une hache, non pas avec la langue, mais avec le doigt, pour disparaître complètement. Si seulement il peut y avoir une hache dans l'espace. Mais cela se peut-il ? Dit distraitement Ivan Fiodorovitch. Il cherchait à rassembler toutes ses forces pour ne pas prendre pour une réalité son hallucination et ne pas achever de devenir fou. « Une hache ?» reprit les hôtes avec étonnement. « Mais oui, que ferait-elle dans l'espace ?» demanda Ivan avec fureur. « Eh bien, quelle idée ! Si elle est très loin de la Terre, je pense qu'elle s'amusera à tourner autour de votre planète en guise de satellite, sans savoir pourquoi. Les astronomes calculeront son lever et son coucher. » Et on la mettra dans les almanachs, voilà tout. Oh, tu es bête, horriblement bête. Fais-moi des mensonges plus spirituels ou je ne t'écoute plus. Tu veux me convaincre de ta réalité par des procédés de réaliste? Oh, je ne te crois pas. Mais je ne mens pas. Tout cela est vrai. Malheureusement, la vérité n'est jamais spirituelle. Je crois que tu attends de moi quelque chose de grand, peut-être de beau. Tant pis, oh, je ne te donne que ce que je veux. Ne fais donc pas le philosophe, Anne. Quelle philosophie ! J'ai tout le côté droit paralysé. Je ne puis que geindre. J'ai consulté toute la faculté. Oh, ils sont très forts pour diagnostiquer sur la maladie, mais guérir. Oh, ils ont un très joli système. Ils envoient le malade chez un spécialiste. Nous autres, nous diagnostiquons, lui, il nous guérira. L'ancien système selon lequel chaque médecin traitait toutes les maladies a complètement disparu. Il n'y a plus que des spécialistes. As-tu mal au nez ou on t'enverra à Paris? Il y a un fameux spécialiste européen pour les affections du nez. Tu vas donc à Paris, le spécialiste examine ton nez. Oh, je ne puis, dit-il, guérir que votre narine droite, car je ne traite pas les narines gauches. Ce n'est pas ma spécialité, il faut aller à Vienne. Il y a là un spécialiste pour les narines gauches. J'ai recouru aux remèdes des bonnes femmes, mais un médecin allemand m'a conseillé de prendre un bain après m'être fait enduire de miel salé. J'ai suivi l'ordonnance en pure perte. En désespoir de cause, je m'adresse au comte Mattei, à Milan. Il m'envoie une brochure et des globules. Que Dieu lui pardonne, enfin. C'est l'extrait de Hoff qui m'a guéri. Je lui ai signé une attestation, comme quoi son remède m'avait réussi. Mais voilà bien une autre affaire. Pas un journal n'a voulu de mon attestation. C'est trop réactionnaire, dit-on. Personne ne veut plus croire à l'existence du diable. Publier cela sous le voile de l'anonyme. Mais une attestation anonyme. J'ai ri avec les journalistes. C'est en Dieu, lui ai-je dit, qu'il est réactionnaire de croire. Mais moi, je suis le diable. C'est vrai, m'ont-ils répondu. Pourtant, cela ne rentre pas dans notre programme. Un titre de nouvelle à la main, si vous voulez. Cela m'est resté sur la conscience, vois-tu. Les meilleurs sentiments, et entre autres la reconnaissance, me sont interdits à cause de ma position sociale. Encore de la philosophie, fit Ivan en grinçant des dents. Que Dieu m'en garde. Je me plains, voilà tout. Je suis calomnié. Tu me traites perpétuellement d'imbécile. Ah, jeune homme, l'esprit ne fait pas tout. J'ai reçu de la nature un cœur bon et gai. J'aime à la folie le vaudeville. Tu me prends peut-être pour un vieux Khlestakov, et pourtant ma destinée n'est pas drôle. Par une inexplicable erreur de la fortune, je suis condamné à nier, et je n'en suis pas moins foncièrement bon, très mal fait pour la négation. Non, il faut que tu nies, sans négation, pas de critique, et sans critique, comment feraient les revues? Ôter la critique, il n'y a plus que des hosanna. Cela ne suffit pas. Il faut que l'hosanna soit contrebalancé par le doute, etc., etc. Du reste, je ne suis pour rien en tout cela. Ce n'est pas moi qui ai inventé la critique. Je n'ai pas à répondre pour elle. Je n'en suis pas, moi, le bouc émissaire. Il faut que je critique. Et voilà l'origine de la vie. Nous comprenons très bien, nous autres, cette comédie. Moi, je ne demande que le néant. Non, m'est-il répondu, il faut que tu vives, car sans toi, rien n'existerait. Rien ne serait possible sur la terre si tout s'y passait sagement. Sans toi, point d'action, il faut que l'homme agisse. Voilà comment, bien à contre-cœur, j'accomplis mon mandat. Je suscite des actions humaines. Je me discrédite par obéissance. Les gens, même les plus intelligents, prennent au sérieux cette comédie. Et prendre au sérieux la comédie de la vie, c'est une tragédie intime. Et ils en souffrent. Mais, en revanche, ils vivent. Ils vivent réellement et non idéalement, car la souffrance, c'est la vie. Quel plaisir aurait-on sans la souffrance? Tout serait comme une interminable cérémonie. C'est sain, mais que c'est ennuyeux. Or, moi, je souffre, et pourtant je ne vis pas. Je suis l'X de l'équation à N inconnu. Je suis le spectre de la vie. Je n'ai plus d'origine, je n'ai pas de fin. J'ai oublié mon nom. Ah, tu ris. Non, tu ne ris pas. Tu te fâches encore. Tu te fâches toujours. Il te faudrait toujours de l'esprit. Oh, j'aurais donné toute cette vie supraterrestre, tous les grades, tous les honneurs, pour m'incarner en une grosse et grasse marchande et faire brûler des cierges à l'église. Alors, tu ne crois plus en Dieu, toi-même, fit Ivan avec un sourire fielleux. Comment donc, mais parles-tu sérieusement? Ben, Dieu est-il, oui ou non? Cria Ivan avec un entêtement de fou. Ah, c'est donc sérieux. Eh bien, mon petit pigeon, je te jure par Dieu que je n'en sais rien. Voilà ce que je puis dire de plus sincère. Non, non, tu n'es pas. Tu es moi-même et pas d'autre chose. Si tu veux, j'ai la même philosophie que toi. Je pense donc je suis. Voilà ce dont je suis sûr. Quant au reste, quant à tout ce qui m'entoure, Dieu et Satan lui-même, tout cela ne m'est pas prouvé. Si tout cela a une existence personnelle, ou si ce n'est qu'une émanation de moi, un développement successif de mon moi qui existe temporellement et personnellement. Mais, oh, je m'arrête car je vois que tu vas me battre. Si au moins tu me racontais une anecdote. Eh bien, en voici une précisément à propos du point qui nous occupe. Plutôt une légende qu'une anecdote. Tu me reproches mon scepticisme, mais il n'y a pas que moi le sceptique. Nous sommes sans dessus dessous, chez nous, à cause de vos sciences. Tant qu'on a connu que les atomes, les cinq sens, les quatre éléments, cela allait encore. On parlait déjà d'atomes dans l'Antiquité. Mais vous avez ouvert la molécule chimique, le protoplasma, et diable sait encore quoi. Alors nous avons commencé à baisser la queue. Quel chaos! Eh bien, cette légende de notre Moyen-Âge, non pas du vôtre, n'a pas de croyants, sauf peut-être les grosses et grasses marchandes. Les nôtres n'ont pas les vôtres. Car tout ce qui existe chez vous existe aussi chez nous. Je te dévoile ce mystère par amitié. C'est pourtant défendu. Cette légende parle donc du paradis. La voici. Vous avez eu un certain philosophe qui niait tout, les lois naturelles, la conscience, la foi, surtout la vie future. Après sa mort, il croyait aller dans les ténèbres du néant, et voilà qu'il entre dans la vie future. Il se fâche, il s'étonne. Cela, dit-il, est contre mes convictions. Et il fut condamné pour cela. Excuse-moi, je ne t'en raconte que ce qu'on m'en a dit de moi-même. Donc, il fut condamné à faire dans les ténèbres un voyage d'un quadrillion de kilomètres, car nous avons aussi les kilomètres maintenant. Et quand il aura fait son quadrillion, les portes du paradis lui seront ouvertes et tout lui sera pardonné. Et quelles sont les tortures de l'autre monde, outre les quadrillions ? Demanda Ivan avec une étrange animation. Quelles tortures ? Oh, ne m'en parle pas. Auparavant, c'était encore supportable. Mais aujourd'hui, on a inauguré le système de la torture morale. Les remords de la conscience et autres balivernes dans ce goût. C'est votre adoucissement des mœurs qui nous a valu cette mode. Et au profit de qui? Au profit de ceux qui n'ont pas de conscience. En revanche, les gens honnêtes souffrent davantage, les gens encore chargés d'honneur et de vertu. Voilà ce que c'est. On fait des réformes sur un terrain qui n'est pas encore préparé. Et surtout, emprunter des institutions à l'étranger. Quelle folie! Le feu d'autrefois, aujourd'hui démodé, valait mieux. Notre condamné au quadrillon regarde donc un moment devant lui, puis se couche en travers de la route. Je refuse, dit-il, je refuse par principe. Prends l'âme d'un athée russe de la meilleure éducation et mêle-le avec l'âme du prophète Jonas, qui bouda pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine, et tu oublieras notre penseur étendu en travers de la route. Et sur quoi est-il étendu? Oh, il est probable qu'il y avait de quoi s'étendre. Tu te moques de moi? Bravo! Cria Ivan. Il écoutait avec une visible curiosité. Eh bien, reprit-il, a-t-il fini par se relever? Non, il resta ainsi pendant 1000 ans. Puis il se leva et marcha. Oh, quel âne! Ivan éclata de rire nerveusement et se mit à réfléchir. Rester couché éternellement ou marcher tout un quadrillion de verstes, n'est-ce pas tout un? Mais cela fait 1 billion d'années de marche. Ah, et même plus, si j'avais du papier et un crayon, je ferais le calcul. Mais il y a longtemps qu'il a fait son quadrillion, et c'est là que commence l'anecdote. Comment, mais où a-t-il pris 1 billion d'années? Oh, tu fais toujours des raisonnements terrestres et de ton temps. La Terre a peut-être elle-même subi 1 billion de transformations. Elle s'est gelée puis fondue. Elle s'est décomposée en ses éléments premiers. Et de nouveau, les échos ont recouvert la Terre. Elle a passé comète, elle est devenue soleil, puis Terre. Une série infinie de transformations selon des lois immuables. Et de tout cela résulte un ennui tel qu'il en est inconvenant. Eh bien, qu'est-ce qui arriva ensuite? Eh bien, aussitôt qu'on lui eut ouvert la porte du paradis, il entra. Mais il n'y resta pas 2 secondes, montre en main, quoique, selon moi, sa montre ait dû se décomposer en ses éléments premiers durant le voyage, et s'écria que, pour ces 2 secondes, il subirait encore un voyage, non pas d'un quadrillion de kilomètres, mais d'un quadrillion de quadrillion au quadrillionième degré. Et il chanta « Hosanna !» Mais il chanta trop. Je te le répète, c'est une légende. Je te la donne pour ce qu'elle m'a coûté. Tu peux voir par là les idées qui ont cours chez nous. « Je te tiens !» s'écria Ivan avec une joie enfantine, comme s'il se rappelait subitement quelque chose. « C'est moi-même qui ai inventé cette histoire du quadrillion de kilomètres. J'avais alors 17 ans et j'étais au gymnase. Je l'ai conté à un de mes camarades. Elle est très caractéristique, je l'avais oubliée. » Mais je me la suis rappelée inconsciemment. Ce n'est pas toi qui me l'as dite. Tu n'es donc décidément qu'un rêve. La fougue même que tu mets à me nier me prouve que malgré tout tu crois en moi, dit le gentleman avec gaieté. Pas du tout. Je n'ai pas 1/100 de fraction de croyance en toi. Et 1/1000. Les doses homéopathiques sont souvent les plus fortes. Avoue que tu crois en moi au moins au 10 000e. Non, cria Ivan. D'ailleurs, je voudrais bien croire en toi. Hi, 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 voilà un aveu. Mais je suis bon. Je vais t'aider. C'est moi qui te tiens. Je t'ai conté exprès ton anecdote pour que tu ne crois pas en moi. Bon, tu mens. Ton but évident est de me convaincre de la réalité. Précisément. Mais les hésitations et l'inquiétude, le duel entre la négation et l'affirmation, constituent pour un homme conscient comme toi une telle souffrance qu'il y a de quoi se pendre. Je sais que tu crois en moi un peu. Et c'est pour augmenter ton scepticisme que je t'ai fait ce conte. C'est ma nouvelle méthode. Quand tu seras convaincu que je ne suis pas réel, tu te mettras à m'assurer que j'existe vraiment, que je ne suis pas un rêve, et mon but sera atteint. Or, en lui-même, mon but est noble. Je vais semer en toi une légère semence de foi. Il en naîtra tout un chêne, un si grand chêne qu'à son ombre tu rêveras de te faire ermite. Car au fond de toi-même, tu as le goût des solitudes sacrées, où l'on se repaît de racines sauvages. Alors, misérable, c'est pour mon salut que tu fais tout cela? Mais il faut bien faire une fois une bonne action. Pourquoi t'irriter si fort? Bouffon! N'as-tu jamais tenté les solitaires qui passent 17 ans au désert et qui sont envahis par les mousses? Mon petit pigeon, je n'ai jamais fait que cela. On néglige le monde entier pour une âme aussi précieuse que la tienne. Une étoile comme toi fait oublier toutes les constellations. Nous avons un calcul particulier. Or, il y en a parmi les solitaires qui te valent pour le développement intellectuel, malgré que tu en aies. Ils peuvent recevoir simultanément de tels abîmes de doute et de foi que, parole, il me semble parfois qu'il s'en faut d'un cheveu qu'ils soient à nous. Et malgré tout, tu t'en vas toujours avec un élan d'une aune. Mon ami, mieux vaut un long nez que pas de nez du tout. Comme le disait en guerre encore un marquis malade, il devait être soigné par quelques spécialistes dans sa confession à un père jésuite. J'ai tout entendu, c'était charmant. Rendez-moi mon nez, cria-t-il en se frappant la poitrine. Mon fils, insinuait le pater, toutes choses sont réglées par les desseins de la Providence. Un malheur évident engendre parfois un bonheur caché. Si les cruautés du sort vous ont privé de votre nez, consolez-vous en pensant que personne ne pourra jamais vous dire que vous l'avez trop long. Fille, que c'est bête! Mon ami, je voudrais te faire rire. Vois-tu, il n'y a rien de tel pour nous distraire des ennuis de la vie que ces petites boîtes surnommées par les jésuites des confessionnaux. Voici une historiette toute récente. Arrive chez un vieux pater une petite blonde, une normande, une jeune fille de 20 ans. Quelle beauté, un corps! Ça faisait venir l'eau à la bouche. Elle s'agenouille et murmure son péché dans le guichet du pater. « Que dites-vous là, ma fille? Vous êtes retombée encore une fois !» s'écrie le pater. « Oh, Sancta Maria, qu'entends-je? Et déjà plus, avec le même, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? N'avez-vous pas de honte ?»« Ah, oh, mon père !» répond la jeune fille tout en larmes. « Ça lui fait tant de plaisir, et à moi si peu de peine. » « Que dis-tu de cette réponse ? Mais c'est le cri de la nature elle-même. Pour moi, je lui ai donné l'absolution. Je me retournais déjà pour m'en aller, quand j'entendis le pater lui fixer à travers le petit trou un rendez-vous, un vieillard, c'est-à-dire presque un vieillard. Il a succombé en un instant. La nature a repris le dessus. Quoi, tu es encore fâché? Je ne sais plus comment faire pour t'être agréable. Laisse-moi, tu es un cauchemar insupportable, fit Ivan en soupirant. Il se sentait vaincu par la persistance de sa vision. Tu m'ennuies terriblement, je donnerais beaucoup pour te chasser d'ici. Modère tes exigences, je t'en prie. N'exige pas de moi le grand et le beau, et tu verras comme nous serons bons amis. dit le gentleman d'un ton persuasif. Au fond, tu m'en veux de n'être pas venu à toi dans une lueur rouge, dans le tonnerre et les éclairs, les ailes entamées par le feu. Tu m'en veux de m'être présenté à toi avec des dehors si modestes. Tu es blessé par là dans tes sentiments esthétiques, d'abord, et puis dans ton orgueil. Comment un diable si banal ose-t-il aborder un si grand homme? Tu as encore des prétentions romantiques si bafouées par Bielinski. Qu'y faire, jeune homme? Je pensais, en me préparant à venir chez toi, à prendre les apparences d'un conseiller d'État en activité, décoré des ordres du lion et du soleil. Mais j'y ai renoncé, tu m'aurais battu. Comment mettre ma boutonnière, les crachats du lion et du soleil, au lieu de l'étoile polaire ou le Sirius? Et tu me reproches ma bêtise? Mais bon Dieu, je ne prétends pas avoir ton intelligence. Méphistophélès, en abordant Faust, annonce qu'il fera le mal et ne fait que le bien. C'est son affaire. Moi, je suis tout le contraire. Je suis peut-être le seul homme du monde qui aime la vérité et veuille sincèrement le bien. J'étais là quand le Verbe s'est crucifié, s'est élevé aux cieux, emportant avec lui l'âme du bon larron. J'ai entendu l'acclamation joyeuse des chérubins qui chantaient Hosanna et les hymnes des séraphins, ces hymnes qui faisaient trembler tout l'univers. Eh bien, je te jure, par tout ce qui est saint, que j'aurais voulu me joindre à ces chœurs et crier moi aussi Hosanna. Ce cri allait déjà sortir de ma poitrine. Tu sais que je suis très sentimental, très accessible aux émotions esthétiques. Mais le bon sens, oh, la plus désastreuse de mes vertus, m'a retenu dans les limites nécessaires et j'ai laissé passer leur irréparable. Car, pensais-je, qu'arriverait-il si je criais « Hosanna » ? Tout s'éteindrait dans le monde, plus personne n'agirait. Voilà comment mon devoir professionnel, ma condition sociale, m'ont forcé à refouler en moi les bons instincts et à rester dans mon ignominie. D'autres accaparent la gloire du bien, on ne me laisse que l'ignominie. Mais je ne suis pas jaloux de cette gloire volée, je ne suis pas vaniteux. Pourquoi suis-je seul entre toutes les créatures voué aux malédictions des honnêtes gens? Il y a ici un mystère qu'on ne peut pas me révéler, de peur que je ne hurle « Hosanna » et qu'alors disparaisse de l'univers la négation nécessaire et que soit le règne de la sagesse, c'est-à-dire que tout disparaisse, même les journaux et les revues. Car qui s'abonnerait alors? Je sais bien qu'à la fin de tout, je finirai par deviner cette énigme. Je ferai mon quatrillion et je me réconcilierai avec Dieu. Mais d'ici là, je boude, et le cœur serré, j'accomplis ma destinée. Perdre des milliers pour en sauver un. Combien, par exemple, a-t-il fallu perdre d'âme et souiller de réputation pour obtenir un juste, un Job, au nom de qui l'on s'est si méchamment joué de moi jadis? Non, tant que l'énigme ne sera pas expliquée, il y a pour moi deux vérités. L'une, la leur, que j'ignore. L'autre, la mienne. Reste à savoir quelle est la meilleure. Tu dors? Je crois bien, gémit rageusement Ivan. Tout ce qu'il y a de plus bête en moi, tout ce que j'ai voulu depuis longtemps et rejeté de mon esprit, tu me l'apportes comme une nouveauté. Oh non, je n'ai pas encore réussi. Moi qui pensais te séduire, en faisant un morceau de littérature. Cet hosanna des anges, vraiment, ce n'était pas mal. Pourquoi ce ton sarcastique à la Heine, eh ? Non, oh non, jamais je n'ai eu ces idées de laquais. Comment mon âme a-t-elle pu produire l'image de laquais que tu es ? Mon ami, je connais un charmant petit barine, tout jeune, un penseur, un amateur de littérature et d'art. Il est l'auteur d'un poème non sans mérite intitulé « Le grand inquisiteur ». C'est lui que j'avais en vue tout à l'heure. Oh, « Je te défends de parler du grand inquisiteur !» s'écria Ivan tout rouge de honte. « Et ce cataplysme géologique, tu te le rappelles ? Voilà un poème. Tais-toi ou je te tue ?»« Moi me tuer ? Attends, il faut que je te dise tout ce que je pense. Je ne suis venu que pour me procurer ce plaisir. » Oh, que j'aime les rêves de mes jeunes amis, fougueux, âpres à la vie. Là, disais-tu l'an dernier, quand tu te disposais à venir ici, vivent des gens nouveaux. Ils veulent tout détruire et en revenir à l'anthropophagie. Les sots, ils ne sont pas venus me demander conseil. À mon avis, il ne faut rien détruire, excepté l'idée de Dieu dans l'esprit de l'homme. C'est par là qu'il faut commencer. Oh, les aveugles, ils ne comprennent rien. Une fois que toute l'humanité en sera venue à nier Dieu, et je crois que l'époque de l'athéisme universel arrivera comme telle époque géologique à son rang. Alors, de même, sans anthropophagie, disparaîtront les anciens systèmes et surtout l'ancienne morale. Les hommes se réuniront pour demander à la vie tout ce qu'elle peut donner, mais seulement et absolument à cette vie présente et terrestre. L'esprit humain grandira, s'élèvera jusqu'à un orgueil satanique, et ce seront les temps du Dieu humanité. Sans cesse triomphant de la nature par la science et par la volonté, et sans limite cette fois, l'homme, par cela même, éprouvera une joie si intense qu'elle remplacera en lui les espérances des joies célestes. Chacun saura qu'il est mortel, qu'il n'a à compter sur aucune résurrection et acceptera la mort avec orgueil, tranquillement, comme un dieu. Son orgueil même empêchera l'homme de se révolter contre la dure loi qui limite si vite la durée de sa vie. Et il aimera ses frères, sans exiger de retour. L'amour cherchera sa satisfaction dans cette vie passagère, et le sentiment même de la brièveté compensera en intensité les jouissances disséminées dans les espérances illimitées d'un amour d'outre-tombe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est charmant! Ivan se bouchait les oreilles de ses deux mains, regardant la terre et tremblant de tout son corps. Et la voix continuait. « La question gît en ceci, » pensait mon jeune rêveur. « Est-il possible que cette époque vienne jamais ? Mais si elle vient, tout est décidé. L'humanité sera définitivement ordonnée. Mais comme... vu la bêtise innée de l'espèce humaine, il se peut que rien de tout cela n'arrive avant 1000 ans. Il est permis à ceux qui ont la conscience de cette vérité d'ordonner leur vie selon ces principes nouveaux. Et c'est dans ce sens que tout est permis. Plus encore, si cette époque ne doit jamais arriver, comme Dieu et l'immortalité n'existent pas, il est permis à l'homme, qui se règle selon les principes nouveaux, de devenir l'homme-dieu, fût-il seul dans l'univers à vivre ainsi. Il pourrait dès lors, d'un cœur léger, franchir tous les obstacles de la morale ancienne qui réduisait l'homme en esclavage. Pour Dieu, il n'y a pas de loi. Dieu est partout à sa place. Tout est permis, mais ce mot résume toute la loi. Tout ça est très charmant. Seulement pour tricher, quel besoin a-t-on de la sanction de la vérité? Mais tel est notre Russe contemporain. Il ne peut tricher sans la sanction de la vérité, tant il aime cette vérité. Et l'hôte était entraîné par sa propre éloquence. Il haussait de plus en plus la voix et regardait avec ironie le maître d'océan. Mais il ne put finir. Ivan prit tout à coup sur la table un verre de thé et le jeta à la face de l'orateur. « Oh, mais c'est bête, enfin !» s'écria l'autre en se levant vivement et en épongeant avec son mouchoir les gouttes de thé sur ses habits. Il s'est souvenu de l'encrier de Luther. « Il prétend me considérer comme un rêve. On jette donc des vers à la tête des fantômes. C'est agir en femme. Je soupçonnais bien que tu faisais seulement semblant de te boucher les oreilles. Tu écoutais. » En ce moment, on frappa aux vitres avec persistance. Ivan Fyodorovitch se leva. « Tu entends, ouvre donc !» s'écria l'hôte. « C'est ton frère Alyosha. Il t'apporte la plus inattendue des nouvelles, tu peux me croire. Tais-toi, hypocrite. Je savais avant toi que c'est Alyosha. Je l'avais pressenti et certes, il ne vient pas pour rien. Il apporte évidemment une nouvelle, s'écria Ivan au paroxysme de l'exaspération. Ouvre donc, ouvre-lui. Il fait une tourmente de neige dehors et c'est ton frère. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors. On frappait toujours. Ivan voulait courir à la fenêtre, mais quelque chose le paralysait. Il s'efforçait de briser les liens qui le retenaient, mais vainement. On frappait de plus en plus fort. Enfin, les liens se rompirent, et Ivan Fyodorovitch se redressa. Il regarda d'un air effaré autour de lui. Les deux bougies étaient presque consumées. Le verre dont il venait de jeter le contenu à son hôte était sur la table. Sur le divan, personne. On frappait encore à la fenêtre, mais beaucoup moins fort qu'il ne lui avait paru tout à l'heure, avec beaucoup de discrétion même. « Ce n'est pas un rêve ?»« Non, 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 je jure que ce n'était pas un rêve. Tout cela vient d'arriver. » Ivan courut à la fenêtre. « Alyosha, je t'ai défendu de venir » cria-t-il avec rage. « En deux mots, que me veux-tu? En deux mots, entends-tu ?»« Il y a une heure que Smerdiakov s'est pendu, » répondit Alyosha. « Monte, je vais t'ouvrir, » dit Ivan. Et il alla ouvrir la porte. Alyosha apprit à Ivan qu'une heure auparavant, Maria Kondratievna était venue lui apprendre que Smerdiakov s'était tué. Elle l'avait trouvé pendu à un clou fiché dans le mur, et avant d'aller faire sa déclaration aux autorités, elle était accourue tout droit chez Alyosha. Il s'était rendu avec elle dans le logis de Smerdiakov. Il était encore comme Maria Kondratievna l'avait vu. Sur la table, on trouva un papier qui portait ces mots. « Je meurs par ma propre volonté, qu'on n'accuse personne de ma mort. » Alyosha laissa ce billet sur la table et alla chez Lisplavnik. « Et de là, je suis venu chez toi, » dit Alyosha en regardant fixement Ivan, dont le visage le surprenait. « Frère, dit-il tout à coup, tu es probablement très malade. Tu me regardes comme si tu ne comprenais pas ce que je te dis. » C'est bien d'être venu, dit Ivan d'un air absorbé et comme s'il n'avait pas entendu l'exclamation d'Alyosha. Je savais qu'il se pendrait. Par qui le savais-tu? Bon, je ne sais pas par qui, mais je le savais. Le savais-je? Oui, c'est lui qui me l'a dit. Il vient justement de me le dire. Ivan se tenait au milieu de la chambre, l'air toujours absorbé, regardant la terre. Mais qui, lui? Demanda Alyosha en regardant involontairement tout autour. Il vient de se sauver. Ivan leva la tête et sourit avec douceur. Mais c'est de toi qu'il a eu peur, toi ta colombe. Tu es un pur chérubin. C'est Dmitri qui t'appelle ainsi, chérubin. Le cri formidable des séraphins. Qu'est-ce qu'un séraphin, moi? Toute une constellation, peut-être. Et peut-être cette constellation n'est-elle qu'une molécule chimique? Existe-t-il une constellation du lien et du soleil? Sais-tu? Frère, assieds-toi, dit Alyosha effrayé. Assieds-toi sur le divan, je t'en prie. Tu as le délire. Appuie-toi sur le coussin. C'est cela. Veux-tu une serviette mouillée sur la tête? Ça te ferait du bien. Oui, donne la serviette. Et ici, sur la chaise. Je viens de l'y jeter. Non, elle n'y est pas. Mais ne t'inquiète pas, la voici, dit Alyosha en ramassant dans un coin de la chambre, auprès de la table à toilette, une serviette propre et encore sèche. Ivan considéra cette serviette avec un regard étrange. Attends, dit-il en se dressant sur le divan, il y a une heure, cette même serviette, je l'ai prise mouillée, appliquée sur ma tête et puis jetée. Comment donc est-elle sèche? Il n'y en avait pas d'autre. Tu as appliqué cette serviette sur ta tête. Mais oui, il y a une heure, quand je marchais à travers la chambre. Et pourquoi ces bougies sont-elles consumées? Mais quelle heure est-il? Bientôt minuit. Non, oh non, cria Ivan. Ce n'était pas un rêve. Il était ici, sur ce divan. Quand tu as frappé à la fenêtre, je lui ai jeté un verre. Celui-ci, attends un peu. Cela m'est déjà arrivé. Oh, Alyosha, oh, j'ai maintenant des rêves. Mais ce ne sont pas des rêves, c'est réel. Je marche, je parle, je vois. Et pourtant, je dors. Il était ici, assis sur ce divan. Il était terriblement bête, Alyosha, terriblement bête. Il éclata de rire et se mit à marcher dans la chambre. Mais qui? De qui parles-tu, frère? Demanda anxieusement Alyosha. Mais du diable! Il vient chez moi. Il est venu 2-3 fois. Il m'exaspère. Il me reproche de lui en vouloir parce qu'il n'est que le diable, au lieu du Satan traditionnel, aux ailes entamées par le feu et qui arrive dans le tonnerre de ses éclairs. Ce n'est que l'imposteur, un diable de la dernière classe. Il prend des bains, s'il ôtait ses habits. Tu lui verrais certainement une queue longue, lisse comme celle d'un chien danois, longue d'une archine couleur d'argile. Alyosha, tu as froid, tu as reçu la neige, veux-tu du thé? Tiens, il est froid, on va faire bouillir le samovar. C'est à ne pas mettre un chien dehors. Alyosha courut à la table à toilette, mouilla la serviette, persuada Ivan de s'asseoir de nouveau et lui enveloppa la tête, puis il s'assit auprès de lui. J'ai peur, demain, de Katia. Je la crains plus que tout au monde dans l'avenir. Elle me trahira demain, elle me foulera aux pieds. Elle croit que je perds Mitya par jalousie à cause d'elle. Oui, elle croit cela. Eh bien non, demain, ce sera la croix et non pas le gibet. Non, non, je ne me pendrai pas. Sais-tu que je ne pourrai jamais me tuer, Alyosha? Est-ce par lâcheté, non? Moi, je ne suis pas lâche. C'est par amour de la vie. Comment savais-je que Smerdyakov s'était pendu? Oui, c'est lui qui me l'a dit. Tu es bien sûr que quelqu'un est entré ici? Demanda Alyosha. Oui, sur ce divan, dans le coin. Tu l'aurais mis à la porte. D'ailleurs, c'est toi qui l'as fait partir. J'aime ton visage, Alyosha. Le sais-tu? Et lui, mais lui, c'est moi, Alyosha, c'est moi-même. Tout ce qu'il y a en moi de vil, de bas, d'humiliant, c'est lui. Oui, je suis un romantique, il l'a bien dit. Pourtant, quelle calomnie! Il est terriblement bête, mais c'est là sa force. Il est rusé, bestialement rusé. Il sait très bien me mettre hors de moi. Il m'irritait en me disant que je crois en lui. C'est comme cela qu'il m'a forcé à l'écouter. Il m'a trompé comme un gamin. D'ailleurs, il m'a dit sur mon propre compte beaucoup de vérités, des choses que je ne me serais jamais dites. Sais-tu, Alyosha? Sais-tu, ajouta Ivan d'un air confidentiel, je voudrais bien que ce fût réellement lui et non pas moi. Il t'a fatigué, dit Alyosha avec pitié. Il m'a exaspéré et très adroitement, sais-tu bien. La conscience, qu'est-ce que cela? C'est moi qui l'ai inventé. Pourquoi donc le remords? Par habitude, par cette habitude humaine qui date de 7000 ans. Échappons à l'habitude et nous serons des dieux. C'est lui qui disait cela. Et pas toi, pas toi, s'écria malgré lui Alyosha en le regardant d'un air serein. Oublie-le donc, qu'il emporte avec lui tout le mal qui était en toi et qu'il ne revienne plus. Il est méchant, Alyosha. Il se moque de moi. C'est un insolent. Alyosha, dit Ivan en tremblant de rage, il m'a calomnié. Il m'a calomnié devant moi-même. Oh, tu vas accomplir une grande action. Tu vas déclarer que tu es le véritable assassin et que ce laquais n'a tué ton père qu'à ton instigation. Frère, ce n'est pas toi qui as tué. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui l'a dit, et il le sait. Tu vas accomplir une action vertueuse, a-t-il dit, et pourtant tu ne crois pas à la vertu, voilà ce qui t'exaspère. Il l'a dit, et il sait ce qu'il dit. Mais c'est toi qui l'a dit, ce n'est pas lui. Tu as le délire. Non, non, il sait ce qu'il dit. C'est par orgueil que tu auras dire « C'est moi qui ai tué. Pourquoi avez-vous peur de moi? Vous mentez. Je méprise votre jugement et je me ris de votre peur. » Et il disait encore « Sais-tu ce que tu veux? Tu veux qu'on t'admire. C'est un assassin, dira-t-on, un grand criminel, mais quel noble cœur. Il a voulu sauver son frère, il s'est accusé. » Mais cela est faux, Alyosha. Je ne veux pas de l'admiration des smerdes. Je te jure qu'il mentait. Je lui ai pour cela jeté un verre qui lui a fracassé le museau. Frère, calme-toi. Cesse. Non, c'est un savant bourreau. Et quelle cruauté. Oh, je sais bien pourquoi il vient. Soit, disait-il, tu iras par orgueil, mais tu garderas l'espoir qu'on envoie Smerdyakov au bagne, qu'on absolve Mitya et qu'on te condamne moralement seulement. Mais Smerdyakov est mort. Et qui donc alors voudra consentir à me croire? Je suis pourtant résolu à y aller, à dire, mais pourquoi faire maintenant? Oh, c'est affreux, Alyosha. Frère, mais comment a-t-il pu te parler de la mort de Smerdiakov avant mon arrivée? Personne encore ne savait cela. Mais celui qui me l'a dit, dit Ivan d'un ton péremptoire. Mais sais-tu toi-même pourquoi tu y vas? Tu n'en sais rien, et tu donnerais beaucoup pour le savoir. D'ailleurs, es-tu bien décidé à y aller? Tu iras par lâcheté, parce que tu n'oseras pas ne pas y aller. Et pourquoi n'oseras-tu pas? Devine toi-même. Et là-dessus, tu es entré, il est parti. Il m'a traité de lâche. Smerdiakov aussi. Il faut les tuer. Oh, Katia me méprise, je le vois depuis un mois. Et toi aussi, tu me méprises, Alyosha. Je te détesterai désormais. Je hais aussi le fauve, l'autre, qu'ils pourrissent au bagne. J'irai demain leur cracher au visage à tous. Ivan se leva avec violence, arracha la serviette et se mit à courir à travers la chambre. Alyosha n'osa le laisser seul pour aller chercher le médecin. Et peu à peu, Ivan achevait de perdre la raison. Il ne cessait de proférer des phrases incohérentes. Tout à coup, il chancela. Alyosha le saisit, le conduisit à son lit et le coucha. Le malade tomba dans un profond sommeil. Alyosha resta pendant 2 heures auprès de son chevet, puis s'étendit sur le divan après avoir prié pour ses 2 frères. Il commençait à comprendre la maladie d'Ivan. Trop d'orgueil, trop de conscience. Dieu et la vérité que repoussait Ivan assiégeaient son cœur révolté. Oui, pensait Alyosha, puisque Smerdiakov est déjà mort, personne ne croira Ivan. Il ira pourtant. Il déposera. Oh, Dieu vaincra, se dit Alyosha avec un doux sourire. Ou Ivan se redressera dans la lumière de la vérité, ou bien il périra dans la haine en se vengeant de lui-même et des autres, et pour s'être asservi à une foi dont il n'était pas convaincu.